eh bien, on revient à ce petit déj contact avec nos deux intervenants.
Pour le choix donc, du labo, donc, ce qui est génial, c'est donc sur une candidature libre, en général, bon, on fait ça par mail quoi, maintenant, évidemment, et si on a une première réponse, on va essayer d'avoir un contact téléphonique avec la personne. Donc souvent, ça, c'est un peu intimidant, surtout en anglais au début, c'est pas forcément facile. L'intervention téléphonique. Donc, il ne faut pas hésiter à faire plusieurs échanges de mails s'il faut à l'avance avec la personne où on se sent quand même un peu plus à l'aise par écrit. Si on ne se sent pas à l'aise le jour J, ou alors bien expliquer au début, pas hésiter à dire à la personne de parler lentement ou de répéter. Quoi. Ce qu'il faut être, par rapport aux États-Unis, simplement, il faut être hyper décomplexé. Il y a 3 Américains sur 4 qui ne parlent pas anglais. Je veux dire, c'est vraiment le melting pot, les États-Unis. Quoi. Quand vous allez commander votre truc au Starbucks Coffee, il ne va rien comprendre de ce que vous voulez. Ce n'est pas parce que vous parlez mal anglais avec votre accent français sexy. Quoi. Non, ce n'est pas ça. Quoi. C'est que lui, en face, elle ne parle pas mieux anglais que vous non plus. Quoi. Donc voilà, c'est tout. Et du coup, tout le monde est décomplexé et personne n'ira se moquer.
Je dirais qu'il y a beaucoup de gens qui ne parlent pas anglais dans les labos.
Oui, aussi, typiquement. Ouais.
Moi, quand je suis arrivé, j'ai dit je ne parle pas très bien anglais. Il m'a dit t'inquiète pas, il n'y a personne qui parle anglais dans mon labo. En fait. Ouais. Et il n'y avait que lui qui était vraiment américain de souche. Quoi.
Ouais, d'ailleurs, en règle générale, il n'y a que le chef du labo qui est américain. Okay. Ceux qui font le boulot, ce n'est pas les américains dans les labos. Hein. D'accord. Vous allez avoir, 50% d'asiatiques, 50% d'indiens et voilà quoi. Voilà.
Alors moi, je vais dire un truc qui n'est pas du tout politiquement correct. Mon patron, ce qu'il me disait, voilà, dans un labo, c'est simple. Il y a les bodies. Les bodies, c'est très dur, ce que je veux dire. C'est que quand on a un financement, NIH ou n'importe quoi, on dit, voilà, j'ai besoin de tant de millions de dollars, je recrute 15 personnes. Et souvent, il n'y a pas les 15 personnes. Donc, ils recrutent des corps, des bodies, et c'est souvent des Chinois. Et alors, c'est souvent des Chinois parce que c'est vrai qu'ils n'ont pas du tout la même culture et que bah, souvent, la médecine chinoise et la médecine, c'est pas la même. Hein, donc, c'est pas la même recherche. Ah, donc, il y a un certain nombre de Chinois qui sont là, qui, au début, qui c'est un peu galère, puis au bout d'un moment, finissent par faire les trucs correctement et y arriver. Et puis après, il dit, voilà, après, il faut quelques Japonais qui travaillent très, très bien. Ils font le boulot, mais le plus remarquable de la Terre. Par contre, ils ne savent pas trop quoi faire de leurs résultats. Et après, il faut les Américains... c'est pour jouer au golf. Il dit, c'est... Et puis, il faut les Français qui ne foutent pas grand-chose, ou Français, Allemands, Italiens, Espagnols, ne foutent pas grand-chose, mais qui ont des idées. Voilà. C'était son point de vue très caricatural, qui est complètement débile aussi. Mais pour vous dire que finalement, dans un labo, on parle anglais parce que bah, c'est le pays d'origine, mais qu'il n'y a pas grand-chose d'américain dans un labo de recherche américain.
Bon, après, il y a une caricature sur les Asiatiques, par exemple, dans les labos. Ce qu'il faut dire aussi, souvent, c'est que c'est des gens qui viennent, qui ont toute leur famille, souvent, qui est restée au pays, ouais. Et qui sont là pour travailler comme des fous, avec comme objectif, on leur fait miroiter d'avoir un article ou quelque chose pour... Bon, ça, on en reparlera, mais pour pouvoir rentrer. Et voilà, donc, moi, je connais des gens donc, qui dormaient dans les labos, quoi. C'est pas des légendes, quoi. Donc, je veux dire, C'est à la fois triste, mais bon, évidemment, heureusement, il y en a qui réussissent, quoi. Mais c'est aussi une notion différente, parce que ça, j'ai vu aussi dans les questions là, pour aujourd'hui, des gens qui parlaient de comment partir avec un conjoint, comment organiser une vie de famille aussi là-bas. Ça, c'est important, quoi. Et ça, c'est aussi des éléments à prendre en compte, quoi. Par rapport à ça, donc, juste ce que je veux dire, c'est pourquoi on fait un postdoc à l'étranger. Donc, à la base, on fait ça pourquoi? Parce qu'on est obligé et parce qu'on a besoin d'articles pour avoir un job, OK? Mais en fin de compte, pourquoi on est obligé, pourquoi on a besoin d'articles et tout? Parce que les gens veulent des personnes qui ont fait des postdocs à l'étranger et qui ont publié. Et pourquoi, finalement, les gens ils veulent ça? La vraie raison à l'origine, c'est parce qu'effectivement, ça enrichit énormément d'aller voir comment les gens travaillent ailleurs. On apprend une deuxième langue, on apprend différentes méthodes de travail. En général, on a plus de moyens pour travailler. Voilà, donc, il ne faut pas voir ça comme une contrainte. Si c'est comme ça que ça marche, c'est vrai que c'est triste d'être forcé de le faire à l'heure actuelle pour avoir un poste. Mais finalement, faut pas le voir de cette manière. C'est un enrichissement personnel vraiment énorme, quoi. Donc finalement, c'est plutôt une chance. Et voilà, enfin, je sais pas si tous vos amis sont dans le même domaine que vous, mais je pense qu'il y a des gens qui seraient ravis de pouvoir s'expatrier pour aller faire vraiment ce qui leur plaît et en retirer vraiment une richesse que tout le monde peut pas faire, quoi.
Okay. Ouais, moi je continuerai là-dessus en disant donc pour cet exemple, moi j'étais avec quelqu'un également à cette époque. Je suis parti aux États-Unis pendant 2 mois, on était séparés, puis après pendant 6 mois, et au bout de 6 mois. J'ai eu une bourse MRT de thèse. Donc, je vais rentrer en France dans un labo. Parce que je voulais retrouver ma copine, quoi. Et puis, ils m'ont dit ici, non, tu peux pas. En France, tu vas travailler avec des bouts de ficelle, etc. etc. Donc, j'ai dit, OK, mais il faut y trouver un job. au bout de 48 heures, elle avait un travail. Dans un labo, comme ingénieur, elle faisait de la science également. Voilà.
Alors, ça aide, ça.
La SAED. Alors, j'ai plein de copains qui ont dû se marier pour un problème de visa. Moi, c'était hors de question. C'était pas une bonne raison, ce genre de choses.
Pas une bonne raison.
Ouais. L'autre, alors, le conjoint peut venir, si vous êtes marié, il peut venir pendant, il peut travailler au bout d'un moment, donc ça, c'est l'avantage, dans n'importe quoi. J'ai d'autres connaissances, j'ai une copine qui est partie là, à Los Angeles. Son copain a demandé à sa boîte une mise à disposition. La boîte a accepté, de toute façon, elle n'a pas le choix au bout d'un moment, je crois. Et puis, lui, ça fait un an qu'il galère, parce que là, c'est en période de crise. Et que même si c'est vrai qu'il y a du boulot absolument partout, enfin il y a marqué partout now hiring, tu sais, c'est vraiment donc des petits boulots, mais il y en a vraiment partout du travail. Mais ils vont plutôt prendre un Américain plutôt que prendre un étranger. Donc pour vendre des pizzas ou n'importe quoi, ça c'est sûr. Bon, maintenant qu'on est très spécialisé comme vous, c'est facile de trouver un job parce que en fait pour avoir un visa, il suffit de prouver que ce travail, il n'y a que vous au monde qui puissiez le faire. Donc en recherche, c'est très simple. Alors que pour vendre des fringues, ouais.
C'est exactement ça. Donc moi, je me suis marié donc juste avant de partir, voilà, pour pouvoir l'emmener plutôt avec moi sur un siège que avec les bagages dans la soute. Et effectivement, le principe, c'est que le conjoint, au bout d'un certain temps, a droit à un permis de travail. En général, ça prend 4 mois. Et effectivement, donc là-bas, ils sont très demandeurs d'informaticiens, de scientifiques, ce genre de choses. Et donc au début, comme elle n'avait pas ce genre de formation, donc elle a pris des petits boulots. Ensuite, elle a eu une bonne opportunité pour faire de l'enseignement en fait, dans une école bilingue à Boston. Donc ça a été super enrichissant aussi sur la fin. Mais je dirais que c'est une chance. Et aussi, c'est parce c'est quelqu'un de très volontaire aussi, qu'on a profité pour prendre des cours d'anglais, etc. Et c'est vrai qu'il y a des opportunités à saisir. Mais de toute façon, bon, après, il n'y a pas, je veux dire, dans n'importe quelle situation de la vie, quoi. Si on veut essayer de faire tenir un couple, il y a toujours des opportunités pour l'un, pour l'autre. C'est très rare d'avoir les deux opportunités en même temps. Donc, il y a toujours un qui va se sacrifier plus ou moins à un moment. Quoi. Donc, après, je dirais que c'est une notion de choix personnel. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où, à moins d'avoir tous les deux une possibilité localisée au même endroit par un domaine de recherche, je ne sais pas, quelque chose. Quoi. Sinon, c'est vrai que le mariage est l'option pour pouvoir partir ensemble parce que ça te permet d'avoir un permis de travail. C'est assez difficile sinon d'obtenir, je dirais, comme ça. Il n'y a que dans le monde de la recherche ou de l'informatique où on peut facilement trouver un poste comme ça. Quoi.
Mais même quel que soit le boulot qu'on fait, partir à l'étranger, apprendre l'anglais, mais c'est...
Ah, mais l'obtention d'un visa n'est pas forcément facile.
Oui, je suis d'accord. Enfin, je finirais juste pour dire un truc, c'est que c'est vraiment pas dur de partir à l'étranger. On s'en fait des trucs. Moi, je me dis, ouais, j'ai passé 3 ans ici, 3 ans ici. Oh, c'est super, j'adorais, bah fais-le. Ah non, je peux pas. C'est pas dur de partir. Ce qui est dur, c'est de prendre la décision de partir. Mais vraiment, finalement, on s'en fait une montagne, mais c'est simple. C'est vraiment simple.
Bon, il y a aussi un truc, c'est que moi, de ce qu'on me disait sur Boston, par exemple, parce que c'est l'expérience que j'ai, c'est après, c'est difficile de revenir aussi. C'est-à-dire que les gens qui restent plus de 5 ans me disaient, attention, si tu restes plus de 5 ans, tu n'auras plus envie de revenir.
Mais le bar d'Ali McBeal, il n'existe pas, en fait. Hein.
Alors, en fait, donc, ce qui est marrant, c'est que moi, j'ai vraiment une vraie nostalgie. Je dirais qu'après, c'est plus pour des raisons personnelles que je suis revenu. Mais dans l'absolu, je pense que je serais resté même dans mon labo et j'aurais continué à faire ça. Ça me plaisait vraiment.
Non, je serais resté aussi si ma femme n'avait pas décidé de repartir.
Voilà. Donc, on est un peu dans le même cas.
Moi, mon patron m'a dit, voilà, dans 5 ans, je pars en retraite. Je te propose de te payer tes études de médecine. Parce qu'on peut faire un peu ce qu'on veut, quoi. Et puis, dans 4 ou 5 ans, tu reprends la direction du labo avec un salaire décent. Quand je dis un salaire décent, il faut multiplier par 6 ou 7 par rapport à un salaire français. Hein.
Je vous parlais des études aussi. Si vous avez 3 gamins à qui il faut payer les études, c'est normal d'avoir un salaire comme ça. Quoi. C'est aussi pour ça. Quoi. Et l'intérêt, c'est que si on reste justement de manière transitoire là-bas, qu'on n'a pas à économiser pour les études de nos enfants,
ouais.
Ça fait que même avec un salaire de postdoc, on peut vivre vraiment très, très bien.
C'était calculé. Hein. Alors, un couple aux États-Unis de chercheurs gagne beaucoup mieux sa vie qu'un couple de chercheurs en France, de l'ordre de 3, 4, 5 fois mieux. Par contre, un couple avec 3 enfants, c'est le même niveau de vie, que ça soit en France ou aux États-Unis. Parce que voilà, la maternelle est payante, une nounou, c'est aussi cher qu'à Montpellier. C'est incroyable. Hein. Avec les enfants, c'est incroyable.
Ouais, parce que moi, quand on parlait du fait que la science, 9 fois sur 10, ça ne marche pas, et de temps en temps, ça marche. Moi, j'ai fait une super manip qui a marché d'enfer là-bas. C'était une insémination in vivo. Et donc j'ai ramené un petit Américain. Et ma femme a dû arrêter de bosser pour le garder à la maison parce que ça coûtait plus que son revenu de le faire garder, en fait. Okay.
Ça arrive souvent que donc justement c'est... pas être conjoint, ce qui se passe assez souvent, c'est le cliché, mais que ce soit le mec ou la fille qui ne travaille pas, bah souvent le postdoc fait un enfant, un bébé là-bas, et puis pendant 3 ans, bah, c'est, le conjoint s'occupe de l'enfant. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup d'exemples comme ça. C'est souvent même les pères, que dans mes exemples que j'ai, moi, qui s'occupent du gamin pendant que la mère fait son postdoc de 3 ans.
Non, nous, on est rentrés, il avait 3 mois, donc ça va, ça a été supportable. Par rapport, peut-être, je pense qu'il est important, on parlait des contacts avec le labo, le fait donc d'avoir les premiers contacts par mail, éventuellement un contact par téléphone. Ensuite, je pense que, bon, il n'y aura pas toujours la possibilité, mais s'il y a possibilité de visiter le labo, c'est super important. Et comment ça marche, quoi. Techniquement, c'est super rodé, ce genre de choses. C'est-à-dire qu'en gros, vous êtes invité comme un speaker quand vous êtes un postulant postdoc.
Comme en France. Hein.
Voilà. Ouais. Mais dans le sens où, comme tu disais par rapport à la France, c'est comme si vous étiez un chercheur renommé. Ce n'est pas un étudiant qui vient pour dire ouais, s'il va être pris ou pas. Vous arrivez et vous êtes traité comme si vous étiez vraiment un chercheur très réputé, ce qui est peut-être déjà le cas, hein, j'en sais rien. Mais
chercheur, tout simplement.
Voilà.
Hein.
Voilà. Et du coup, il va y avoir des annonces et il ne va pas y avoir que les gens du labo. Normalement, il y a même d'autres personnes qui vont venir assister à votre conf. Quoi. Donc ça peut être un petit peu intimidant, mais au moins, c'est sympa, vous ne vous déplacez pas pour rien. Quoi. Et donc, en général, c'est organisé où vous allez avoir une présentation. Et ensuite, vous allez rencontrer chaque personne du labo. En général, le responsable du labo fait un planning et vous allez rencontrer chaque personne. Donc finalement, c'est génial, le travail est fait pour vous. Comme disait Franck, ce qui est super important, c'est de rencontrer les gens à part. Alors, si vous rencontrez chaque personne du labo et qu'il y a le responsable du labo qui est 2 mètres derrière, c'est même pas la peine. Vous n'aurez aucune info sur le labo, d'accord ? Parce qu'aux États-Unis, en plus, les gens sont très réservés. Ce n'est pas comme en France où il y a un franc-parler, etc. Quoi. Donc il faut vraiment voir les gens de manière séparée, quoi. Et vraiment les questionner sur la qualité de vie, de travail dans le labo, ce genre de choses, quoi. Et moi, par exemple, donc, j'avais sélectionné 3 labos. Donc je suis allé visiter 3 labos, un à Baltimore, un à Boston, un à New York. Au départ, le Baltimore et Boston, c'est des personnes que j'avais déjà rencontrées à un congrès, donc qui m'avaient proposé d'aller visiter leur labo. Je connaissais un petit peu leur travail, mais pas plus que ça. Ça avait l'air d'être intéressant, mais c'était pas forcément ce qui me plaisait le plus. Le labo de New York, c'était le labo dont je rêvais en lisant les articles. Moi, mon rêve, c'était d'aller là-bas. J'avais fait une candidature libre. Et au téléphone, la responsable avait l'air super intéressée. J'étais là, c'est pas vrai et tout. Donc, génial. Donc, j'y vais, quoi. Et finalement, je m'étais dit, je vais d'abord visiter Baltimore, qui me plaît le moins, Boston et New York. Donc, j'ai visité les labos dans cet ordre-là. Baltimore, c'était un labo, le premier que j'ai visité. Donc, j'avais pas trop de recul par rapport à ça. Le responsable était un médecin qui passait 99% de son temps donc, à la médecine et peu à la recherche. Enfin, il avait une grosse équipe qui bossait pour lui. Mais du coup, il était jamais là. Et moi, je me sentais pas, je me disais, mince, j'ai encore besoin de soutien, je suis petit scarabée, tout ça, je vais pas m'en sortir tout seul. L'ambiance avait l'air bonne, mais Baltimore, bon, ça avait l'air triste à mourir, et je me suis dit, bon, je pars pas tout seul, c'est mal famé en plus, enfin, surtout autour du labo.
On était noyaux aussi,
voilà.
C'est tout plat.
Voilà. Et puis les Frenchies sont moins bien vus que...
Complètement.
Voilà. Et donc, là, c'était bon, premier intéressant, quoi, ok. Et ensuite, je suis allé visiter le labo de Boston, je vous en reparlerai, c'est là où j'ai fait mon postdoc. Et ensuite, je suis allé visiter celui de New York. Et celui de New York, je suis arrivé, et la responsable, enfin vraiment, j'ai trouvé très froide. Et ensuite, j'ai discuté avec les personnes du labo. Bon, il y avait une Française dans le labo, je l'avais contactée. Ça, c'est aussi bien, vous regardez les sites internet, vous repérez les gens. Si vous voyez quelqu'un, vous dites, mince, français, ça peut aider, vous discutez avec la personne, on espère avoir un peu plus d'infos, quoi. C'est comme si on avait un espion de l'intérieur, déjà, quoi. Et on a eu un très bon contact et tout, mais elle a eu la position que j'ai eue à Boston, c'est-à-dire qu'elle était là au démarrage du labo. Donc finalement, c'était un peu la chouchou de la responsable du labo, donc elle n'était pas très objective. Et après, moi, j'ai vu les gens à part un. Il y a quand même un des techniciens du labo, alors qu'on était en entretien tous les deux, qui a pleuré devant moi, en me disant « mais c'est pas si dur de travailler avec elle ». Mais je dis, pardon, c'est pas ça la question que j'ai posée. J'ai demandé sur quoi tu travailles, quoi. Donc là, c'était quand même un indice, enfin, je sais pas, c'était un Américain, un bon gaillard et tout. Je me suis dit, mince, ça va peut-être pas le faire, quoi, ici. Et j'ai cru comprendre, en demandant bien quels étaient les sujets des gens, qu'il y avait des gens qui travaillaient sur la même chose, quand même. Donc là, j'ai dit, bon, c'est pas la peine, quoi.
Faut éviter.
Voilà.
À moins que vous aimiez
ça,
l'ambiance.
Voilà, et pourtant, ça a été la première personne à me dire, ok, c'est ok, on te prend, il y a un appartement pour toi en plein Manhattan, ok, vous imaginez le prix que ça coûte un appartement dans Manhattan, quoi, mais bon. Et j'ai dit non, c'est pas la peine. Mais en fait, ce qui s'était passé aussi avant, c'est que l'entretien à Boston s'était vraiment très bien passé, quoi. J'ai eu le coup de foudre avec la responsable de labo. Enfin, pas de problème. D'ailleurs, elle, bon, pour la petite histoire, elle préfère les femmes, donc il n'y a pas de... Okay. mais simplement vraiment les mêmes idées, les mêmes sujets. Vraiment, elle me proposait un vrai sujet concret. Ça me plaisait. Je donnais 2-3 idées. Enfin, c'était vraiment, j'étais à fond dans le truc, quoi. Et on s'est mis à discuter. Au bout de 10 minutes, c'était comme si je discutais avec un pote sur un sujet. Ouais, c'est génial, on va faire ça et ça et ça, quoi. Donc à la limite, on est parti même sans discuter de trucs concrets, mais c'était, enfin, on était déjà lancé dans les manips, quoi. Et donc là, j'ai senti une accroche où je me suis dit, bon, c'est bon, quoi. Je pense que si ça se passe pas bien, c'est qu'il y a mal donne, quoi. Et effectivement, donc le fait que le labo démarre juste, ça a été un petit peu un risque, dans le sens où je dirais qu'il y a deux types de labos. Soit on va choisir un labo où on se dit ça reste encore très convivial et tout, mais bon, c'est pas un labo qui a encore beaucoup publié. Peut-être que je vais pas publier moi non plus, parce que c'est pas un labo qui fait un science tous les ans, ok. Et après, il y a le labo qui fait un science tous les ans, mais qui a une armée de postdocs, où il va peut-être y avoir une ambiance très dure, il va falloir se battre pour réussir à être celui qui sort le papier. Et après, évidemment, il y a le troisième labo qui est celui justement où finalement ça va bien se passer et on va publier, quoi. Donc moi, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai publié assez vite, mais c'est aussi parce que j'ai collaboré avec quelqu'un qui avait déjà lancé le sujet, puis ensuite j'ai eu mon propre sujet. Mais après, il faut savoir saisir les opportunités, quoi. Souvent, un labo, il n'est pas isolé. Nous, on était à tout un étage où il y avait 5 labos et je passais mon temps à interagir avec les autres labos, quoi. Il y avait vraiment une vie, je dirais, de labo. Ce qui est génial, c'est que bon, tiens, on a envie d'essayer une nouvelle technique. Bah, finalement, le mec qui l'a inventé, il est dans l'immeuble en face. Et là, les responsables de labo vous poussent vraiment à faire ça, quoi.
Il y a quand même de la chance. Il y a voilà. Une petite chance quand même.
Ah ouais, mais voilà, mais 100%. Mais la finale, c'est 100% ça, quoi. Je veux dire, attendez, si on publie, c'est pas parce qu'on est bon, hein, c'est parce qu'on a de la chance, quoi. Franchement, c'est uniquement ça, quoi. Là, après, il y a une part, je dirais, de le fait d'être bon, c'est de pouvoir saisir l'opportunité et la chance quand elle vient, c'est tout. C'est d'être réactif, quoi. Parce que en général, quand on est rendu en thèse, on a suffisamment chié avant, on a suffisamment bossé pour être là. Ok, on n'est pas arrivé là en dilettante pour le fun, quoi. Ok, bon, après, il y en a peut-être qui simplement ont des très bonnes facilités dans leur domaine et n'ont pas besoin de travailler beaucoup pour y arriver, tant mieux pour eux. Mais en règle générale, c'est qu'on aime bosser quand on est rendu là, quoi. Après, c'est vraiment une question de chance et d'opportunité, quoi. Et c'est pour ça aussi, comme je vous disais, il ne faut pas non plus s'entêter sur un truc qui ne marche vraiment pas, quoi.
On va maintenant passer aux questions après une petite pause musicale.